Vocation Entrepreneur, c'est votre bulle introspective en psychologie des femmes entrepreneurs. Pour cet épisode 7, j'ai invité Safia Gourari, entrepreneur sur le web en marketing digital et podcasting. Elle va vous expliquer comment adopter une flexibilité mentale qui va vous permettre de relever les défis de votre projet entrepreneurial.
Tout ce que je vous enseigne, c'est bien, mais vous n'avez pas besoin de suivre ça à la lettre pour réussir, puisqu'en vrai, la seule personne responsable de notre succès, c'est nous-mêmes. Il n'y a aucun événement ou personne extérieure qui peut faire qu'on va réussir ou qu'on va abandonner. C'est nous, la vision qu'on a de nous-mêmes et les actions qu'on va mettre en place. Donc vraiment, on est responsable de notre réussite.
Dans cette interview, vous allez découvrir que la flexibilité mentale se travaille en permanence. Votre prérequis ? Une humilité sans faille qui va vous aider à rester connecté à vos besoins et à votre vision de la réalité. L'humilité, c'est quoi ? C'est d'accepter de remettre en question ses choix lorsque cela devient nécessaire. Vous allez découvrir à quel moment Safia estime qu'elle n'est pas dans la bonne direction et quel est son curseur pour continuer un projet malgré l'absence de résultats. Safia Gourari, c'est l'histoire d'une personne introvertie qui a su miser sur ses points forts alors que rien ne laissait présager sa réussite. Aujourd'hui, son business fait 6 chiffres. Et même si elle a encore du mal à le croire, Safia a développé une confiance en elle solide au fil des années et elle n'est pas prête de s'arrêter. Vous allez comprendre que c'est la pratique qui permet de découvrir vos talents cachés. Et même si cela peut prendre du temps, continuer son bout de chemin mènera forcément vers vos trésors cachés. Vous êtes prêt à découvrir ce portrait d'entrepreneur captivant par son authenticité ? C'est parti ! Safia, bonjour !
Salut Ayette !
Bienvenue sur le podcast Vocation Entrepreneur.
Ben merci, je suis contente que tu me reçoives et que je fasse partie un peu de l'élite des premiers épisodes.
Oui, tout à fait, tout à fait. Tu as une chance incroyable. Enfin, c'est moi qui ai de la chance, hein, en réalité. Alors, Safia, tu es entrepreneur sur le web depuis 2015-2016, infopreneur spécialisée dans le marketing digital et le podcasting, et tu es créatrice du blog My Trendy Lifestyle et du podcast Build Yourself. Alors, je suis très heureuse de t'accueillir parce que ton parcours m'inspire. Et je dois t'avouer que ton parcours a beaucoup résonné en moi parce que tu as eu des expériences qui me parlent énormément. Mm-hmm. Mais bon, ça c'est assez subjectif, hein. Et ce qui m'intéresse particulièrement chez toi, c'est cette capacité à te remettre en question. Pour moi, tu incarnes une certaine humilité. Et j'ai l'impression que tu n'arrives toujours pas à croire à l'histoire entrepreneuriale dans laquelle tu es et que tu es en train de vivre. Et que tu vis ça comme une chance incroyable.
Mais, alors déjà, je suis très touchée, hein, je tiens à te le dire. Merci beaucoup, ça me touche ce que tu viens de dire. Et c'est vrai. On en parlera après, mais c'est vrai, c'est un peu comme ça que je vois les choses.
Bon, alors ça va, j'ai pas tapé à côté, tant mieux. Alors si je t'ai invitée, c'est justement pour cette capacité-là. Tu es quelqu'un qui arrive à adopter une certaine flexibilité mentale. Et on va approfondir ce sujet tout au long de l'interview. Mais avant, j'aimerais faire un petit flashback à un moment un peu symbolique de ta vie d'entrepreneur, même si à ce moment-là, tu n'en avais pas encore vraiment conscience. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as écrit ton premier article de blog ?
Ouais, je m'en souviens. Alors, je crois que c'était...
Et le sujet, alors ?
Attends, je crois que c'était un article sur mes séries préférées. Si je dis pas de bêtises.
Non, c'est pas ça.
Sur l'organisation.
Un peu, ouais, un peu.
Organisation, productivité. Ouais, parce que j'étais trop dans une démarche, tu vois, un peu lifestyle et tout. Et bah vas-y, dis-moi le titre pour voir.
Alors, 5 choses à faire quand on n'a rien à faire.
Ah bah tu vois, ça décrit bien la genèse de mon blog.
Tout à fait. Alors tu vois, on a l'impression que tu t'es faite violence à ce moment-là dans l'état d'esprit. Bon, là, je vais commencer et on verra après. Il faut que je ponde quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là?
En fait, c'était exactement ça. Je me suis dit, bah, je voulais créer ce blog parce que j'avais pas vraiment de hobby. J'avais un job que j'aimais pas beaucoup. Et j'avais besoin d'une espèce d'échappatoire. Et puis comme je lisais beaucoup de blogs, je me suis dit, ok, bon bah, je vais créer le lien. Maintenant, quand tu décides de créer un blog, tu sais pas toujours de quoi il va traiter, en fait. J'ai jamais été une personne, comme je te dis, qui a une passion ou des choses pour lesquelles elle était douée. Je suis une touche à tout. Donc, je me suis dit, bon, on va faire simple. Et pour le premier épisode, on va parler des gens qui s'ennuient, qui ne savent pas quoi faire. Et ben, je vais leur donner des petites astuces.
Mais c'est bien parce que je sais pas si on se rend compte en fait à ce moment-là quand on est là à produire son premier épisode, son premier article de blog, enfin n'importe quoi en fait hein, dans toutes les démarches entrepreneuriales, est-ce qu'on se rend compte vraiment de ce qui va arriver derrière quoi?
Absolument pas. Tu te dis vraiment c'est je jette une bouteille à la mer quoi. Je le produis. Est-ce que les gens vont l'écouter? Bah enfin vont le lire en l'occurrence puisque là c'était un article. J'y croyais pas. Hein. Je me suis dit si quelqu'un tombe dessus par hasard, bah ce serait très bien déjà. Mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à la tournure que les choses allaient prendre sur les années qui ont suivi.
Voilà, et c'est en fait, moi j'adore remonter tous les blogs, les feeds sur les comptes sur les réseaux sociaux pour voir dans quel état d'esprit la personne était et comment elle s'est développée. Et tu vois, ça fait vraiment la chenille qui est devenue papillon, tu vois, au bout d'un moment, elle s'est découverte. Et puis, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment le cheminement qui transforme une personne, en fait.
C'est vrai, c'est intéressant, c'est vrai, de partir du début, quand la personne ne sait pas encore ce qui se passe. Toi, t'es dans le futur, donc tu sais ce qu'elle devient et ce qu'elle accomplit. Donc, mais c'est bien de retourner au début, ouais.
C'est ça, tout à fait. Alors, Safia, si je te dis, les vocations se manifestent d'une façon négative, c'est-à-dire qu'on sait très bien tout ce qu'on ne veut pas être, mais qu'on ne sait pas ce qu'on veut être. Qu'est-ce que t'en penses?
Je pense qu'il n'y a pas plus vrai comme affirmation. Je pense que c'est humain de se concentrer sur ce qu'on veut pas aussi. Mais j'ai été ce genre de personne à toujours me dire je veux pas être ci, je veux pas faire ça. Par contre, quand il s'agissait d'affirmer ce que je voulais être, ce que je voulais, etc., c'était un peu plus compliqué. Et je pense que c'est pour ça que, tu vois, mon métier, il est arrivé un peu sur le tard. C'est qu'en fait, je me suis trop concentrée sur ce que je voulais pas. Bon, bien sûr, c'est ce que j'ai eu, puisque j'étais concentrée dessus. Donc, voilà. Mais quand tu comprends que... il y a énormément de possibilités et d'opportunités et que tu peux faire tout ce que tu veux. Je pense que ça vaut le coup de...
Tu vois, qu'est-ce que ça cache? Parce que je comprends très bien cette démarche hein, de « je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça ». Alors, tout le monde n'est pas dans cette démarche-là. Il y en a beaucoup qui prennent tout, mais qui n'arrivent pas à faire le choix. Mais cette façon de s'affirmer en disant non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, au bout d'un moment, on rentre comme dans un cul-de-sac, quoi. Et à un moment, on se dit, faut passer à l'action, là, faut faire quelque chose quand même.
Pour moi, le fait de pas affirmer ce que je voulais réellement et me concentrer sur ce que je voulais, c'est parce que je pensais que je n'avais pas la possibilité et que j'étais dans un moule. Genre, on m'a toujours dit de rester dans un coin, de pas faire de bruit, tu vois, de faire ma petite vie sans déranger un peu les autres, entre guillemets. Ouais, donc, le fait de me concentrer sur ce que je voulais pas, c'était une façon pour moi de faire le tri, mais en même temps, je me voyais absolument pas me dire « je veux telle chose, c'est ma vocation, c'est ce que je veux faire de ma vie, etc. » Ça paraissait trop trop gros, tu vois. C'était osé, mais c'était fou.
Exactement, tout à fait. Et justement, tu as pris récemment conscience de la différence entre le fait d'être, de faire et d'avoir. Alors aujourd'hui, on va philosopher, hein, je te préviens. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pour toi c'est la différence entre les trois?
Ouais, alors quand je me suis lancée dans cette aventure entrepreneuriale, parce que j'étais, en fait, j'ai jamais été une personne hyper intelligente ou maligne, donc j'ai toujours beaucoup travaillé pour obtenir ce que je voulais. Et puis c'est quelque chose qu'on m'avait inculqué aussi, que ce soit dans ma façon de travailler ou pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, tu dois travailler dur. Tu vois, c'est le genre de choses qu'on m'a dit toute ma vie. Donc je me suis concentrée quand j'ai commencé à être entrepreneur à travailler beaucoup, à faire énormément de choses, à appliquer plein de stratégies. Et je me suis concentrée aussi sur le fait d'avoir. Il me faut tant d'argent, il me faut tant d'abonnés, il faut que je mette ça en place, je veux ci, je veux ça. Et jamais, pendant 2-3 ans, je me suis concentrée sur ma personne, sur mon bien-être et sur ma santé. C'est quelque chose que j'ai longtemps mis de côté, malheureusement, et que j'ai décidé vraiment de changer en 2020. Je me suis dit, là, tu vas arrêter de te concentrer sur ce que tu dois faire et ce que tu dois avoir. Tu vas te concentrer sur toi, sur la personne que tu veux être et sur, tu vois, ce que tu veux transmettre en tant qu'humaine, tout simplement.
Mais c'est quand même sportif, hein, ce que tu as fait, parce que réussir à faire et à avoir sans être, c'est vraiment très compliqué.
Je te cache pas que j'ai eu beaucoup de problèmes médicaux, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, ouais, tu vois. Voilà. J'en ai pas forcément parlé, mais j'ai subi une opération parce que, tu vois, le stress, les machins, j'ai fait de l'urticaire, j'ai eu des problèmes de digestion, tu vois, tous les petits maux du corps, le corps t'envoie des signaux. Il te dit que là, tu t'abuses, mais j'ai rien écouté, donc j'ai eu quand même pas mal de problèmes de santé.
Et oui, c'est vrai qu'après, le corps, il reprend ses droits. Et là, t'es obligé, finalement, de te remettre en question et d'adopter ce dont on a parlé au début, donc cette flexibilité mentale. Alors, je sais que t'as été juriste et ton parcours d'étudiante en droit résonne énormément en moi, hein, parce que tu sais que moi aussi, j'ai fait des études de droit. Et quand on parle bouffe, tu sais, le passé revient. Et je sais que tu as fait ces études un peu comme ça, c'était pas spécialement ta vocation et tu cherchais donc la reconnaissance familiale, comme si tu disais bon ok les parents, voilà votre dû, maintenant on est quitte, j'ai eu mon bac plus 5, on se voit plus rien, je vais enfin pouvoir être libre.
C'est exactement ça.
Et du coup, est-ce que tu penses, parce que là tu as envie de redevenir de réintégrer ton moi, quoi, tu vois. Est-ce que tu penses vraiment que quand on grandit dans un environnement où on a une certaine pression sociale, familiale, avec un devoir de réussite, est-ce que tu penses vraiment qu'on peut être connecté à soi-même sans passer par la case reconnaissance sociale, familiale?
Je pense que oui, à partir du moment où t'es éduqué là-dessus, tu vois. Moi, j'avais aucune idée de tout ça. J'avais pas d'autre. Vu que je connaissais que ça, c'était ma réalité, c'était ma vie. Mais à partir du moment où la personne est au courant, tu vois, on vit dans une société où tout le monde est connecté, où il y a un tas d'informations gratuitement sur le web, un tas de ressources pour, tu vois, en apprendre plus sur soi, son aspect psychologique et sa santé mentale. Et je pense que si y a des personnes qui nous écoutent et qui sont un peu dans cette situation, elles ont le pouvoir de changer les choses parce qu'elles ont le pouvoir d'être éduquées sur toutes les possibilités qui s'offrent à elles.
Oui, il faut se réapproprier son éducation finalement.
C'est ça. Ça demande du temps, bien sûr, mais c'est vrai que c'est important.
Mais justement, dans ton parcours, on constate vraiment que tu y es allée pas à pas, prudemment. En fait, c'était vraiment une démarche prudente, et à chaque étape validée, c'était ouais, génial, j'ai réussi, bon, maintenant je vais aller un petit peu plus loin. Et puis tu sais, t'as des entrepreneurs qui disent que dès le départ, il faut voir grand. Est-ce que tu penses qu'on peut voir grand comme ça dès le départ?
Je pense que ça dépend des personnalités. Moi, j'ai jamais été une personne qui a pris des risques. Tu vois, c'est peut-être bête, hein, mais je suis arabe. En plus, je suis métisse, je suis noire et arabe. Je m'appelle Safia. Donc, je pars du principe que je dois rester tranquille. Tu vois ce que je veux dire? On vit dans une société où je me fais pas remarquer, je dois rester à ma place. Et donc, je pense que j'ai jamais été une personne qui a pris des risques ou qui s'est fait remarquer. Et c'est pour ça que j'ai vraiment fait les choses petit à petit. Et que une fois que j'avais atteint un certain niveau, je me suis dit, ah ouais, je suis arrivée là, donc je peux faire plus, en fait. Et du coup, je travaillais pour le niveau suivant, on va dire. Mais si t'as été, si on t'a dit très régulièrement que t'étais capable de grandes choses, et tu vois, si t'as eu une bonne confiance en toi, une bonne estime de toi, je pense que tu peux, avoir immédiatement une grande vision et, tu vois, de grands projets pour ta vie.
Mais c'est pour ça que j'invite des différents profils d'entrepreneurs, parce que les auditrices, elles ont cette capacité à s'identifier à différents types d'entrepreneurs. Il n'y a pas un modèle, en fait. Il n'y a pas un style, il n'y a pas un modèle. Et je dis ça par rapport à, tu sais, aux conseils que les entrepreneurs donnent sur les réseaux sociaux et sur leurs médias. Et c'est vrai que je dis, mais ne vous identifiez pas à tout le monde. Faites attention, prenez ce qui vous convient et allez-y, quoi.
Exactement, c'est ce que je dis tout le temps, et même dans mes, tu vois, je suis en train de retravailler des leçons d'un de mes programmes, et c'est ce que je dis, en fait. Je dis, tout ce que je vous enseigne, c'est bien, mais vous avez pas besoin de suivre ça à la lettre pour réussir, puisqu'en vrai, la seule personne responsable de notre succès, c'est nous-mêmes. Il y a aucun événement ou personne extérieure qui peut faire qu'on va réussir ou qu'on va abandonner. C'est nous, la vision qu'on a de nous-mêmes et les actions qu'on va mettre en place. Donc vraiment, on est responsable de notre réussite.
Voilà, tout à fait. Et c'est, tu vois, quand tu me dis que t'es une personne qui prend pas, enfin, à l'époque, hein, qui prenait pas beaucoup de risques. Et là, je t'invite justement sur la flexibilité mentale. C'est bien que c'est accessible à tout le monde, finalement, cette flexibilité.
Ouais.
Et je trouve que le point le plus difficile à trouver, le point d'équilibre, c'est entre le fait de continuer les efforts quand on est dans une démarche entrepreneuriale, quand on continue les efforts et on n'a pas de résultat, et le fait de se dire, bon là, je crois que je me suis plantée. Toi, tu as déjà mené plusieurs projets. J'aimerais savoir à partir de quand tu considères que là, tu t'es trompée et tu te dis, bon là, stop, je suis pas dans la bonne direction.
De plusieurs manières. Alors, la première, c'est si je vois que ça n'apporte pas ou peu de résultats, alors que ça fait plusieurs mois que je travaille dessus. Donc, dans ce cas-là, je vais me demander si ce que je suis en train de faire, c'est aligné avec ma vision et ce que je veux, tu vois, sur le long terme. Si je me rends compte que ça va pas, que ça m'anime pas forcément, mais je réalise rapidement que ce que je suis en train de faire, c'est pas la bonne direction que je dois suivre. Tu vois, il y a toujours cette remise en question de d'alignement finalement entre mes actions et ce que je veux. Et donc si je vois que j'ai pas de résultat, que ça marche pas, si c'est en accord avec ma vision, je vais tester des choses différentes pour voir si le problème c'est la méthode que j'ai utilisée ou si vraiment le fond c'est que c'est un truc qui m'anime pas et donc je suis pas aussi active, aussi investie, aussi créative que je pourrais l'être dans un projet qui me tient à cœur par exemple.
Et est-ce que tu demandes conseil, toi, autour de toi quand tu
Très souvent. Alors, je pense qu'il est primordial de bien s'entourer, tu vois, quand on est entrepreneur. Je demande conseil limite tous les jours. J'ai un petit groupe d'entrepreneurs avec lesquels on se soutient, on communique très régulièrement. Et c'est vrai que Alors, souvent, c'est pour me rassurer, mais j'aime bien aussi avoir l'avis des autres. Dans tous les cas, je suis toujours ce que moi... Enfin, je suis mon intuition. Et ce qui me semble correct, mais c'est vrai que je demande beaucoup l'opinion de personnes dans mon milieu. Par contre, je précise, je demande pas l'avis de mes proches, je demande pas l'avis de personnes qui sont pas dans mon métier parce que ils sont pas aptes à me répondre correctement. Mais c'est vrai que pour moi, c'est important ça.
Si, c'est vrai que au départ, quand on commence, on peut effectivement se tourner vers l'entourage et on peut faire le mauvais choix justement de.
Oui.
D'aller vers l'entourage alors qu'ils n'ont pas du tout l'expertise ni l'expérience ni même ils ont peut-être peur pour nous donc ils vont peut-être pas nous encourager dans ce qu'on a envie de faire donc oui c'est peut-être pas un très bon choix. Du coup qu'est-ce qui te pousse à persévérer même si t'as pas de résultat mais t'as confiance en toi, tu sais que ça va venir?
C'est ma vision et du coup les intentions que je pose. Parce que j'ai appris avec le temps à arrêter de me fixer des objectifs pour finalement juste poser des intentions.
Oui.
Ce qui me permet d'être plus flexible. On parlait de flexibilité mentale. Oui. Le fait de poser des intentions, ça me permet d'être plus libre. Et donc même si j'ai pas de résultats, si j'estime que ce que je fais, c'est en alignement avec la grande vision que j'ai, ben je vais persévérer en fait. Je vais trouver un moyen d'y arriver.
Voilà, c'est ça en fait, c'est cette petite voix intérieure qui te dit mais ça va venir, ouais. C'est imperceptible finalement.
Ouais, c'est ça. En fait, tu le sens au fond de toi. Tu te dis OK, pour l'instant ça marche pas trop, mais je sens que je peux le faire et que je peux y arriver. Et ça m'avait fait ça au tout début avec mon blog parce que je publiais énormément d'articles et j'avais pas forcément de résultats, tu vois, c'est comme si je publiais un peu dans le vide. J'avais pas forcément de commentaires, pas des visites de fou, mais je me suis toujours dit continue. Parce que je sens qu'il y a un truc, tu vois. Je sens qu'il y a un truc qui arrive et qu'il faut que je continue, que je m'investisse et que je donne le meilleur, même si pour l'instant, j'ai l'impression de parler dans une salle vide et je le fais un peu pour la gloire, tu vois.
Ouais, c'est ça, cette espèce de traversée du désert
qui
nous dit on est en train d'échouer, alors que non, justement, on est en train de créer un truc et ça va arriver. Et on parle souvent de la peur de l'échec, mais pas beaucoup de la peur de réussir. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
C'est marrant que tu dises ça parce que, c'est un truc que je vois souvent, mais effectivement, on s'en rend absolument pas compte. Oui, on a peur de l'échec parce qu'on a peur de décevoir, de se sentir nul, etc. Mais la peur de réussite, je pense que c'est vraiment c'est quelque chose qui est en nous, mais dont on ne prend pas conscience tout de suite. Moi, je me suis beaucoup auto-sabotée parce que j'avais peur d'obtenir certains résultats. Donc, je faisais en sorte, soit je procrastinais, soit je mettais en place des actions qui, je le savais, ne servaient à rien. Je me suis beaucoup sabotée parce que j'avais peur d'obtenir beaucoup. C'est bizarre, hein, de dire ça.
Ouais, c'est bizarre. Non, mais je comprends parfaitement parce que je ressens la même chose et je sais exactement de quoi tu parles. Et c'est généralement, tu sais, le profil de personnes qui aiment pas trop déranger. Tu vois, exactement. C'est des personnes qui ont un potentiel et qu'on leur a dit, non, n'exprime pas trop ton potentiel, reste caché. Et du coup, cette peur de déranger, elle atrophie en fait le ouais. potentiel et oui, et elle développe une peur de réussir. À chaque fois que tu réussis, ça y est, non, il faut que je retourne dans la normalité, il faut que je devienne transparente.
Ouais. faut pas trop que je m'exprime, faut pas trop que je savoure. C'est juste une étape, enfin tu vois, c'est un peu toujours amoindrir ce que tu fais.
Oui, c'est ça, parce que derrière finalement, c'est l'idée que bah tu mérites pas de réussir, quoi.
C'est ça. C'est t'es né dans cette catégorie, donc t'as pas forcément la possibilité d'avoir plus. Et moi, je me donnais pas la possibilité de vouloir plus d'argent avant, tu vois. Et donc pendant longtemps, et c'est pour ça que je pense que j'ai passé quatre ans en micro-entreprise. C'est parce qu'en fait, je me donnais pas la possibilité de vouloir plus, donc j'étais pas proactive dans la gestion et le développement de mon business. Alors que quand j'ai compris que réussir, c'est bien, c'est pas une mauvaise chose, vouloir plus d'argent, c'est pas une mauvaise chose non plus. Quand j'ai compris toutes ces choses et que j'ai compris aussi que tout venait de moi finalement, c'est là que je suis passée à un niveau supérieur et c'est pour ça que 2020 a été une année de folie, mais en même temps, je me dis arrivée à la fin de 2020, je me suis dit ouais, je l'ai mérité, tu vois. Je l'ai mérité.
Oui, puis finalement, l'argent, ça représente pas une personne, finalement, dans l'absolu. Autant peu d'argent que beaucoup d'argent. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien, sérieusement?
Non, absolument pas. Mais tu sais, après, c'est toutes les pensées que t'as, les fausses idées. Finalement, l'argent, c'est juste une ressource qui va te permettre de faire quelque chose ou d'avoir quelque chose. Et c'est pas une finalité en soi. Tu veux pas de l'argent juste pour avoir de l'argent, tu vois. Donc, effectivement, le portefeuille d'une personne, il veut rien dire, quoi.
Il veut rien dire. Donc pour toi, est-ce que le chiffre d'affaires, il conditionne le bonheur dans l'entreprise?
Absolument pas, parce que franchement, j'ai eu plusieurs années où j'avais pas un chiffre d'affaires fou, vraiment très bas, et pourtant ça m'a pas empêché d'être heureuse, tu vois, sur un point de vue perso et m'amuser aussi d'un point de vue pro. Hein, j'ai quand même adoré tout ce que j'ai fait toutes ces années, et pour autant, j'estime, tu vois, que je suis heureuse depuis toutes ces années, quoi.
Alors, au début de l'interview, on a parlé de ce moment symbolique de l'ancienne Safia. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, si tu pouvais lui parler, qu'est-ce que tu aimerais lui dire?
Je pense que je lui dirais d'arrêter de se cacher. Parce que j'ai toujours été une personne qui ne voulait pas se faire remarquer, tu vois. Genre, je prenais pas la parole en cours, je me mettais dans un coin. Si on est dans un groupe et qu'il y a du monde, je vais pas prendre la parole. Tu vois, et ça se reflétait aussi sur ma vie digitale avec mon blog. Et donc, je pense que à cette Safia d'il y a 5 ans, je lui dirais, n'aie pas peur d'être visible, arrête de te cacher. Parce que c'est ce qui va t'aider toi aussi à, d'un point de vue perso, tu vois, en dehors de tout ce que ça peut t'apporter, de te montrer, de partager ce que tu penses et tes valeurs et de rencontrer des gens. D'un point de vue perso, ça peut aussi débloquer, tu vois, des choses au niveau de mon caractère très introverti. On va dire les choses comme elles sont. Mais de ce point de vue-là, je pense que ça m'aurait aidé aussi beaucoup si j'avais commencé plutôt à m'ouvrir.
Et est-ce que ça a dérangé dans ton entourage? C'est-à-dire, est-ce que t'as vu que ton changement n'était pas très apprécié et que t'as dû affirmer? Là, t'as dû te dire, bon, là, il faut que j'assume ce que je suis maintenant.
Dans mon entourage proche, famille, non. Mais c'est vrai que j'ai perdu des amis en cours de route, pour le coup.
Oui. Oui, forcément, parce qu'on a les amis qui nous ressemblent à un instant T, finalement.
Et le fait que tu commences à faire des choses nouvelles et que tu vois que tu fasses des choses différentes, que tu sortes un peu du cadre, que tu obtiennes des résultats, que ça marche, ça plaît pas toujours, quoi.
Oui, c'est ça. Et ça, comment t'as géré ça? Parce que ça crée une rupture, en fait, au niveau social. Et justement, pour les caractères introvertis, c'est une grosse peur, ça, de la rupture sociale, tu vois?
Ouais, en fait, moi, je me suis complètement isolée, tu vois. Je me suis beaucoup isolée et du coup, je me suis beaucoup consacrée à mon activité, au final. Parce que j'ai jamais été une personne à avoir trop d'amis, tu vois. Donc si t'en as plus, enfin ton ami se barre, tes amis se barrent, t'en as plus. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu combles un peu. Et moi j'ai beaucoup travaillé. Après, bien évidemment, avec la vie digitale, j'ai rencontré d'autres personnes qui comprenaient ce que je vivais, qui vivaient les choses. Et là ça a été tu vois, comme si je prenais un, comment on dit, comme si j'expirais, tu vois. Parce que là j'avais de nouveau ces petites interactions avec des gens avec lesquels je pouvais échanger et tout, tu vois.
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que moi, c'est pareil. C'est vrai que la vie digitale, elle permet de rencontrer des personnes qui sont plus alignées avec nous.
Ouais.
Sans être contraint par l'espace, quoi, finalement.
C'est ça.
On va aller à l'autre bout du monde, la personne qui nous convient, quoi.
Ouais, et puis c'est des gens que t'aurais pas rencontrés sans le digital. Ça, je trouve incroyable que nos chemins se croisent comme ça, alors qu'on n'était pas du tout destinés à le faire.
Oui, moi je trouve ça magnifique, hein. Qu'on soit plus limité par la géographie, c'est juste extraordinaire. Et comment toi tu vois la future Safia ?
Franchement, je la vois badass. Je commence cette année 2021 en me disant, tu vas faire des trucs grands, tu vois. Moi je suis une flippette, ouais. C'est-à-dire que tu me mets devant 10 personnes, tu me dis de parler, je te dis non, j'ai plus de voix, je tremble, je suis dans mon, tu vois comment je suis, je suis introvertie, je me cache et tout. Et je me suis dit, la Safia des années à venir, c'est une leader. C'est une nana qui en impose. Et du coup, j'ai accepté de faire une conférence en septembre. Je suis terrorisée à l'idée, mais je sais que je vais le faire, tu vois. Et je vais me donner les moyens de m'améliorer à la prise de parole et de ces choses-là. Parce que la Safia du futur, c'est une personne qui veut, à son niveau, bien sûr, impacter l'histoire et impacter la vie des gens et laisser un certain héritage, tu vois, qui veut se rendre visible et qui veut impacter.
Là, on comprend tout à fait. Et est-ce que tu penses que on peut rester humble en étant grande ?
Je pense que oui, à partir du moment où tu as un entourage et un cadre qui t'y aide, à partir du moment où tu as des gens qui te remettent un peu à la réalité si tu en as besoin. Après, je t'avoue que pour l'instant, en tout cas, j'ai jamais eu de problème à me dire... Enfin, je me suis jamais dit « je suis au-dessus, je parle pas à ces gens-là ». Je me vois vraiment comme une personne lambda qui a juste fait des trucs qui ont marché et qui a obtenu des résultats qu'elle aurait jamais imaginé obtenir. Mais je me vois toujours comme la nana qui vient de la petite ville de l'Oise. Tu vois, je suis la même personne pour moi.
C'est très bien, reste comme tu es. Alors, Safia, je demande à toutes mes invitées, à la fin de l'interview, de nous donner les 3 conseils qui, selon toi, aident nos auditrices à avoir un mental d'entrepreneur sain. Quels sont-ils, selon toi ?
Alors, le premier, on en parlait tout à l'heure, c'est le fait d'être dans l'être et de prendre du temps pour soi, pour se connaître, se comprendre. Parce que je pense que tout démarre de l'esprit, que ce soit là, on parle de mental, de flexibilité, mais aussi les résultats qu'on va obtenir, tu vois, les actions qu'on va mettre en place, tout démarre de l'esprit, en fait. Donc, mon premier conseil, c'est vraiment de prendre soin de soi, de pas se mettre de côté et de savoir s'apprécier en tant que personne et de ne pas s'oublier. Le deuxième, c'est le fait de savoir bien s'entourer. On en a parlé aussi, mais pour moi, c'est fondamental. En étant tout seul, en s'isolant, on n'avance pas. On va se retrouver face à plein d'obstacles. Alors que juste le fait de communiquer, ça a un pouvoir énorme. Donc, moi, j'invite toute personne qui est entrepreneur sur le web à essayer de lier des petites amitiés, à faire le premier pas vers d'autres personnes. Et en général, honnêtement, tout le monde est assez ouvert et bienveillant. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande. Avoir un petit cercle de personnes à qui discuter quand ça va pas, quand il y a des baisses de morale, mais aussi quand on réussit. Quand on obtient des super trucs, eh ben, je pense que c'est bien de le célébrer avec d'autres personnes et pas juste soi dans son coin. Donc pour ça aussi, savoir s'entourer, c'est important.
Surtout en ce moment, on est, tu sais, ça fait un an qu'on est confiné, donc ça commence à peser un peu sur le moral, et on a ce besoin social qui est exacerbé par la privation.
Même moi. Alors que je suis genre de personne très solitaire, même moi, j'ai besoin des autres. J'ai envie de discuter. Non, mais c'est vrai qu'on est dans un climat qui est tellement particulier, où on est tellement isolé. Que vraiment le moindre contact et le moindre échange avec les gens, je trouve que c'est hyper important pour garder un minimum de bien-être mental. Enfin, c'est un point hyper important, quoi. Dans les 3, c'est vrai qu'il a sa grosse importance. Et le dernier, c'est de savoir pivoter et rester aligné avec notre vision sur le long terme, finalement. Parce qu'on a tendance à toujours se concentrer sur ce qui arrive sur les semaines, mois à venir. Et je pense que c'est bien de voir plus loin. Et savoir pivoter quand on se rend compte que ce qu'on fait, ça nous anime plus. Tu vois, que c'est plus quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous procure de la joie. Savoir changer, prendre des risques. Bien sûr, parfois, ça fait peur, tu vois, de se dire « bon, bah je vais arrêter tel projet alors que j'y ai passé X temps ». ou je vais me lancer dans telle chose alors que c'est de l'inconnu. Mais je pense qu'il faut savoir écouter son intuition. Et si notre intuition, elle nous dit, bon bah là, ça va pas, et ce qu'il te faut, c'est plutôt ça, bah faut y aller, quoi. Faut savoir prendre le risque.
Voilà, et en plus, t'es une personne qui accepte facilement de le dire, parce que tu as récemment dit que tu as arrêté ton membership parce que ça collait pas à ta personnalité.
Ouais.
Et le fait de le dire, alors tu sais, il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que dire qu'on s'est trompé, c'est pas bien, ça fait pas pro, etc. Faut déguiser en gros la réalité. Moi, je trouve qu'au contraire, non. Dire qu'on s'est trompé, ça justement, ça renforce la réalité et on s'identifie encore plus.
Mais carrément, mais totalement. Mais tu sais, c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on nous dit beaucoup ce qui est bien, ce qui fonctionne, faites ci, ça c'est trop bien, ça va vous apporter des résultats, appliquez telle stratégie. Mais effectivement, on nous dit pas, bah, j'ai essayé ça et ça n'a pas marché, je me suis rendu compte que, tu vois, que c'est pas un modèle qui me convenait ou que les retours que j'avais étaient pas forcément bons. Et récemment, par exemple, je crois que c'était la semaine dernière, ou il y a quelques semaines, j'ai décidé de fermer une de mes offres. Parce que j'estimais qu'elle était plus du tout en alignement avec la personne que je voulais être. Donc, j'ai envoyé un message à tous les membres. Bien sûr, ces personnes-là conservent leur accès. Mais je leur ai expliqué que le produit, donc c'était la méthode Pinterest, n'allait plus être disponible à la vente parce que c'est plus en alignement avec moi. Et ça aussi, je pense que c'est un truc qu'il faut savoir faire, à savoir prendre des risques comme celui-là, parce que je supprime une de mes sources de revenus, hein, on est d'accord. Mais en même temps, je sens au fond de moi que c'est un risque à prendre pour me rapprocher de, tu vois, de la personne que je veux être finalement.
Et faire mieux ailleurs finalement, parce que
exactement.
C'est ça. Voilà, quand on est concentré, quand on est déconcentré par une multitude de produits qui nous intéressent pas, on n'est pas concentré sur ce qui nous intéresse.
C'est ça. En fait, ça t'enlève un poids et tu te sens un peu plus légère parce que tu te dis, OK, ce temps, je le passerai plus là-dessus. Je vais pouvoir me consacrer à ce nouveau projet qui me fait plaisir ou que j'ai envie de développer. Tu vois, effectivement, ça te libère.
Et comment c'est reçu par le public?
Ben, très bien. Alors, je sais pas si j'ai une communauté particulièrement bienveillante, mais c'est vrai que j'ai eu d'excellents retours de gens qui me félicitaient, qui me disaient qu'ils avaient beaucoup apprécié, enfin, qu'ils appréciaient beaucoup le contenu de la formation, qu'ils avaient hâte de voir ce que je préparais pour la suite. Tu vois, c'était des messages hyper bienveillants, donc j'avais peur d'envoyer ce petit message de, tu vois, de nouveauté, mais finalement, les retours que j'ai eu les larmes aux yeux, je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir des gens aussi gentils, aussi compréhensifs, tu vois.
Ah si, je pense qu'on reçoit ce qu'on donne, donc il n'y a pas de grande surprise. C'est comme quand t'es parti en vacances. Enfin là, t'as pris 2 semaines de vacances récemment. Pour toi, c'était. Tu nous annonçais ça comme si c'était.
J'étais terrorisée. J'avais trop peur. Je me suis dit, mais attends, je serai indisponible pendant une semaine. Si les gens ils arrivent plus à se connecter, comment ils vont faire? Enfin, tu vois, je me faisais un sang d'encre. Pas possible. Je me suis mis plein de trucs en tête. Limite, enfin c'était, je suis limite partie à reculons, tu vois. Donc j'ai envoyé ce message. Les gens m'ont dit bonnes vacances, repose-toi bien, reviens en forme, toujours dans la bienveillance. J'avais préparé un petit message automatique qui expliquait qu'en gros si t'avais des problèmes à te connecter, tu pouvais passer par là, ou si c'était plus important, je reviens à telle date. Donc c'est vrai que les 2-3 premiers jours de vacances, j'étais stressée, c'est-à-dire que j'arrivais pas à dormir et je me disais, imagine ta boîte mail. Enfin vraiment, j'étais hyper stressée quoi. J'y pensais tout le temps. Je me disais, j'avais limite envie de reprendre l'ordinateur et de l'ouvrir et je me disais, non, résiste. T'as dit que t'étais en vacances et t'en as besoin pour que ton business il marche bien. Il faut que tu te reposes toi. Donc je me suis forcée. Finalement, j'ai apprécié mes vacances. J'ai beaucoup dormi. Je me suis reposée. Puis quand je suis revenue, ben, je me suis rendu compte que tout allait très bien. Quand j'enlevais et laissé les demandes de collab, les pubs, les alertes de vente, et ben en fait, il devait y avoir juste genre 4 questions pour le support. Et encore, il y en avait 2 qui avaient été résolues toutes seules parce que les gens ont pu se connecter après. Donc, je me suis rendu compte que waouh, en fait...
T'as le droit de prendre et puis on se croit souvent indispensable, tu vois, alors que les gens sont autonomes, hein, en fait.
Complètement.
Voilà, quand t'as bien fait le truc, quand tu les as pas rendus dépendants de toi, je pense qu'à un moment, tu développes cette autonomie et il y a aucun problème.
Ouais, et je pense aussi que c'est important de communiquer, tu vois, d'expliquer bien les choses et de pas juste les faire dans son coin et juste être transparente et dire les choses très clairement. Ça aide aussi à ce que les gens se sentent considérés et respectés, tu vois.
Oui, c'est ça. Quand on communique, il y a moins de risques de prise de tête derrière, ça c'est sûr. Il y a moins de problèmes, ça c'est clair. Safia, merci beaucoup pour toutes tes réponses, ton authenticité. Vraiment, reste comme tu es.
Merci beaucoup et merci à toi.
Merci. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, où est-ce qu'on peut te trouver ?
Eh bien, on peut me retrouver sur Instagram, à My Trendy Lifestyle. Et puis sinon, comme tu l'as très bien dit en début, il y a mon podcast, Build Yourself, et mon site, My Trendy Lifestyle aussi.
En tout cas, je mettrai toutes les informations sur le descriptif de cet épisode. Je te souhaite le meilleur pour 2021 et les années à venir. À très bientôt, Safia. Prends soin de ton mental.
Merci beaucoup, Aliette. J'ai passé un excellent moment avec toi et je suis très heureuse. Je te remercie. À bientôt.
La flexibilité mentale peut mettre des années à se mettre en place. Tout dépend d'où vous partez. Si vous avez eu l'opportunité dans votre vie professionnelle ou personnelle de prendre de grandes décisions de manière libre, vous avez sûrement déjà les prémices de cette flexibilité mentale. Si, au contraire, vous n'avez pas eu l'occasion d'exprimer librement vos avis et prendre des décisions sans avoir peur de la réaction des autres, cela peut prendre un peu plus de temps pour avoir confiance en vous et en votre capacité de vous sentir pleinement responsable de vos décisions. Le cas de Safia est intéressant parce qu'il prouve que même en étant introvertie, à la base allergique à la visibilité et conditionnée à ne pas faire de vagues, vous pouvez devenir une entrepreneure assumée et responsable de vos décisions. Elle nous a donné un axe de réflexion très intéressant, celui de distinguer le fait de faire, avoir et être. Faire, c'est passer à l'action, mettre en place une stratégie pour arriver à un objectif, celui d'avoir. Alors avoir, ce n'est pas forcément du chiffre d'affaires tout de suite. Ça peut être construire une audience qualifiée via une liste email par exemple, augmenter sa notoriété et son expertise via les médias des autres entrepreneurs. Tout ça, bien évidemment, pour, in fine, avoir un chiffre d'affaires. Si vous développez des actions juste pour faire et non pas pour avoir, le problème qui va se poser, c'est que vous allez être confronté à la démotivation parce que vous n'aurez pas de résultats financiers, alors que le propre d'une entreprise, c'est quand même de gagner de l'argent. Enfin, il y a l'être. Être, c'est partir de ce que vous êtes pour créer le faire et l'avoir. Si vous ignorez l'être, vous oubliez de prendre en compte la ressource la plus importante de votre business, vous-même. A contrario, se concentrer uniquement sur l'être, sans faire ni avoir, c'est le piège dans lequel tombent beaucoup d'aspirants entrepreneurs. Ils mettent le paquet sur le développement personnel sans passer à l'action et n'obtiennent donc jamais de résultats. Mon conseil du jour, c'est donc de partir de ce que vous êtes à un instant T et de développer votre être en faisant. Le fait de faire, de passer à l'action pour obtenir rapidement de l'avoir, des résultats. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous ne pouvez pas vous connaître sans passer à l'action. C'est en passant à l'action et donc en faisant des erreurs que vos points forts et vos points faibles vont se révéler loin de ce que vous pensiez de vous-même au départ. C'est dans l'équilibre entre l'être, le faire et l'avoir que vous trouverez votre bonheur dans l'entrepreneuriat. Et cet équilibre peut mettre du temps à être trouvé. Voilà pour mon analyse du jour. J'espère que ce sujet vous aura aidé à avancer. On se retrouve au prochain épisode de Vocation Entrepreneur pour aborder des sujets encore plus passionnants. Si vous aimez mon contenu, allez vite me donner votre avis par mail sur hello@vocationentrepreneur.com ou un commentaire et une note sympa sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et auprès de votre entourage. N'oubliez pas, prenez soin de votre mental.